RFI, 6h, à Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Jeanne Bartoli. Et
bonjour Julien, bonjour à tous.
Dans cette édition, il était devenu la bête noire de Benjamin Netanyahou.
Et le patron des renseignements intérieurs israéliens limogé par le gouvernement. Des milliers de manifestants se sont opposés hier dans la rue à cette décision. Ronen Bar était en poste depuis 2021. L'armée israélienne, elle, poursuit ses bombardements meurtriers sur Gaza où la population est de nouveau forcée à fuir. Dans l'enclave palestinienne dans un instant. Nous serons aussi aux États-Unis où le démantèlement du ministère fédéral de l'éducation est en marche. On verra les conséquences de la décision de Donald Trump. Emmanuel Macron a dit souhaiter une issue rapide pour que Boualem Sansal puisse retrouver la liberté. Hier, 10 ans de prison ferme ont été requis contre l'écrivain franco-algérien âgé de 80 ans. À la une également des avions déroutés à la chaîne au-dessus de Londres. Cette nuit, l'aéroport de Londres-Heathrow sera fermé jusqu'à la nuit prochaine. En cause un incendie près du site. On parle également d'une polémique autour de l'accueil des migrants adolescents en Espagne. Et puis cinéma à la fin de ce journal avec Prosper, la toute nouvelle comédie de Jean-Pascal Zadi.
Le patron des renseignements intérieurs israéliens limogé à l'unanimité par le gouvernement.
Et sur proposition de Benjamin Netanyahou, Ronen Bar dirigeait le Shin Bet depuis 2021 et il était devenu au fil des années la bête noire de Benjamin Netanyahou, notamment pour ses prises de position contre les actions violentes des colons israéliens en Cisjordanie. Benjamin Netanyahou justifie son limogeage par une perte de confiance professionnelle et personnelle. Des manifestations de soutien à Ronen Bar ont eu lieu hier à l'annonce de son limogeage, alors que l'armée israélienne continue de bombarder, elle, intensément Gaza, et ce depuis mardi, entraînant une nouvelle fois des déplacements forcés pour une population à bout après un an et demi de guerre à Gaza. C'est un reportage de Rami Al-Maghari avec Sami Boukhalifa à Jérusalem.
À peine réinstallé durant la trêve avec sa famille sur les ruines de sa maison à Beit Hanoun, au nord-est de la bande de Gaza, Nidal doit de nouveau repartir.
Les forces d'occupation ont lâché des tracts pour nous dire que nous étions désormais en zone de combat dangereux et que nous devions quitter immédiatement Beit Hanoun, qui est désormais classé zone rouge, de peur qu'ils ne commettent de nouveaux massacres et de nouveaux carnages contre la population. Tous les habitants de Beit Hanoun sont partis.
Une nouvelle errance dans le territoire en guerre. Pour le moment, les déplacés de Beit Hanoun se dirigent vers l'ouest de Gazaville et campent sur la côte, comme Azhar et ses enfants.
J'ai tellement peur que la guerre à grande échelle reprenne comme avant. La trêve nous a offert un court répit. On a pu souffler un peu, même si on a tout perdu, y compris notre maison. Mes enfants sont très jeunes. Ils ont tellement souffert durant cette guerre. Ils sont terrifiés. Et à présent, les bombardements reprennent et nous obligent à fuir à nouveau.
L'armée israélienne a également appelé la population à évacuer une zone dans le sud de la bande de Gaza, une région qui sert, selon elle, aux groupes armés palestiniens pour tirer des roquettes contre Israël. Rami Al-Merali, Gaza, Sami Bourkita, Jérusalem.
Et au total, depuis mardi, 504 personnes ont été tuées à Gaza. À noter cette rare prise de parole du président israélien hier, Isaac Herzog, a pris ses distances avec Benjamin Netanyahou. Il s'est dit troublé par la reprise des combats. Il est impossible de ne pas être profondément troublé par la dure réalité qui se déroule sous nos yeux, a déclaré Isaac Herzog, sans citer nommément Benjamin Netanyahou. Et puis toujours concernant la situation à Gaza, notez qu'Emmanuel Macron sera en visite d'État en Égypte les 7 et 8 avril prochains. Déplacement pour évoquer le plan arabe pour la reconstruction de Gaza. Aux États-Unis, à présent, Donald Trump signe l'arrêt de mort du ministère fédéral de l'Éducation, un projet attendu, applaudi par la droite américaine qui doit encore obtenir l'aval du Congrès. L'éducation relève dans le pays largement des autorités locales, mais Donald Trump avait étrié pendant sa campagne le ministère de l'Éducation, accusant l'institution d'endoctriner les enfants. Les conséquences de ce décret devraient surtout peser sur les zones défavorisées. Écoutez, Laura Rodriguez, c'est la vice-présidente du Center for American Progress.
C'est d'abord la qualité de l'enseignement qui va en pâtir dans tout le pays. Chaque élève allant à l'école publique sera touché, mais les habitants des communautés rurales seront particulièrement affectés. Nous entendons souvent Donald Trump et la droite conservatrice dire qu'ils veulent donner aux élèves et aux familles le choix d'aller dans une autre école, d'aller dans une école privée, d'aller dans une école laïque à gestion privée, d'aller dans une école religieuse. Mais tout cela est simplement impossible dans les régions les plus rurales, car certaines personnes n'ont très peu de choix dans leur village. Elles doivent déjà aller très loin pour aller à l'école. Cela supprimerait même cette option, ne laissant ainsi pour les familles concernées aucune possibilité pour l'éducation publique.
Des propos recueillis par Mélissa Barin.
Elle a reçu hier de nombreuses félicitations.
Et notamment celle de Vladimir Poutine, qui a adressé ses sincères félicitations à Kirsty Coventry après son élection à la tête du Comité international olympique. L'ancienne nageuse zimbabwéenne va remplacer l'allemand Thomas Bach. La Russie, qui a été exclue, rappelons-le, des Jeux Olympiques pour avoir attaqué l'Ukraine. Seuls 15 athlètes avaient pu concourir à Paris 2024 sous bannière neutre.
Emmanuel Macron dit souhaiter une issue rapide pour que l'écrivain français franco-algérien Boualem Sansal puisse retrouver sa liberté.
Une déclaration faite hier soir devant la presse à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles. Et ce, après les réquisitions prononcées lors de son procès pour atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. 10 ans de prison ferme ont été requis contre Boualem Sansal. Pierre Firsion.
Le procès a été très rapide, une demi-heure à peine. Les parties prenantes avaient été prévenues de la tenue de l'audience la veille au soir. Malgré le cancer dont il est atteint, Boualem Sansal, 80 ans, est apparu en bonne forme, selon un témoin présent à l'audience, accusé notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire algérien suite à des déclarations faites en octobre à un média français d'extrême droite. L'écrivain franco-algérien a nié toute intention de porter atteinte à l'Algérie. Selon le quotidien Etchorouk, Boualem Sansal a assuré n'avoir fait qu'exprimer une opinion comme tout citoyen algérien et affirmer être un Algérien aimant son pays sans qu'il ne puisse y avoir, je cite, aucun doute sur son patriotisme. Le romancier a été questionné sur ses liens avec l'ancien ambassadeur de France, Xavier Driancourt, ancien diplomate, aujourd'hui très critique vis-à-vis d'Alger. Aidé d'un interprète, car il a refusé de s'exprimer en arabe, l'accusé a décidé de se défendre seul, sans que l'avocat commis d'office n'intervienne. Le parquet a requis 10 ans contre lui et une amende d'1 million de dinars. Point important, l'écrivain n'a pas été jugé par une chambre criminelle et l'accusation d'intelligence avec des parties étrangères n'est désormais plus retenu contre lui.
Les précisions de Pierre Firsion.
Dans l'actualité, l'aéroport de Londres Heathrow fermé jusqu'à la nuit prochaine.
En cause d'un incendie à proximité de l'aéroport le plus fréquenté d'Europe, environ 70 pompiers sont à l'œuvre. De nombreux vols ont déjà été déroutés. L'aéroport restera donc fermé jusqu'à la nuit prochaine en raison d'une coupure de courant provoquée donc par cet incendie survenu dans une sous-station électrique située à proximité d'Heathrow. On reste à Londres où la monarchie est-elle en train d'envoyer un signal à Washington. Le prince William est actuellement en Estonie pour rencontrer des troupes stationnées dans le cadre de l'OTAN, alors que son père, le roi Charles III, a lui reçu cette semaine le nouveau premier ministre canadien aux prises avec Donald Trump à Londres. Emeline Vin.
La famille royale, tenue à la neutralité politique, ne communique que par symbole et régulièrement sur conseil du gouvernement, qui voit en elle un formidable outil de soft power diplomatique. Certes, la visite du prince William en Estonie envoie un signal clair de soutien aux forces de l'OTAN, mais ce voyage était prévu depuis plusieurs mois, avant les dernières attaques de la part de Donald Trump sur l'alliance transatlantique. Et puis, William, en tant que fils aîné du roi, sera le prochain chef des armées et les troupes britanniques tiennent une place particulière chez lui, qui a suivi une formation militaire. Quant à l'amitié affichée entre Charles III et le premier ministre canadien Mark Carney, visé par la guerre commerciale de Donald Trump, c'était bien le minimum attendu de la part du monarque, qui règne aussi sur le Canada. En fait, la monarchie sait qu'elle a le respect de Donald Trump. Le président américain répète qu'il adore le prince William et il ne cache pas sa fierté d'être bientôt invité par le roi en visite d'État. Visite dont Londres espère qu'elle permettra de décrocher un accord commercial. La famille royale a donc tout intérêt à rester prudente dans les signaux qu'elle envoie. Emeline Van Londres, RFI.
C'est une polémique qui prend de l'ampleur en Espagne.
Elle concerne 5300 migrants mineurs arrivés illégalement sur le littoral des Canaries l'an dernier et qui s'entassent aujourd'hui dans des centres d'accueil saturés. Mardi, le gouvernement socialiste a voté une réforme de la loi sur l'immigration qui oblige désormais les différentes régions espagnoles à héberger ces mineurs venant d'une région saturée. François Musso, la droite, se rebelle depuis contre cette réforme.
Inadmissible, insupportable. Le chef de file de l'opposition de droite, Alberto Núñez Feijóo, n'a pas de mots assez durs pour dénoncer la nouvelle réforme qui oblige concrètement à héberger dans toute l'Espagne 4400 adolescents migrants qui sont en trop dans les îles des Canaries saturées. Ce litige dure depuis des mois, mais désormais la loi oblige. Et elle oblige en fonction de plusieurs critères. La population, le niveau de vie et aussi les efforts consentis par le passé par la région en question. Concrètement, 806 mineurs doivent être reçus dans la région de Madrid, 795 par l'Andalousie et 479 par la région valencienne. Dans les trois cas, ce sont des gouvernements régionaux dominés par la droite. Aux yeux du leader conservateur, c'est bien cela qui est inadmissible et insupportable. Núñez Feijóo estime que, de façon injuste, ce sont les régions gouvernées par son parti qui devront consentir le plus gros effort. Il a appelé les présidents des régions concernées à désobéir, si bien qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne sait ce qu'il va advenir de ces migrants adolescents. François Musso, Madrid, RFI.
Ils sont pour la première fois mis à l'honneur avec une journée mondiale qui leur est consacrée aujourd'hui. Les 274 531 glaciers sur la planète, leur préservation est une question de survie pour l'humanité, dit l'ONU. Les détails dans le journal de 7h. Et puis notre invité ce matin, l'explorateur français Vincent Colliard.
C'est ce soir le coup d'envoi du SIDAction.
Une grande opération de collecte de fonds et de mobilisation pour la lutte contre le VIH. Ces fonds qui sont destinés à soutenir des chercheurs ainsi que des associations qui font de la prévention. Et certaines de ces associations, justement, subissent les coupes dans l'aide américaine décidée par Donald Trump fin janvier. En tout cas, plusieurs activités ont dû être stoppées. Florence Thun est la directrice du SIDAction.
On est encore en état de quasiment de sidération. Aujourd'hui, on soutient 33 associations dans le monde, donc en Afrique de l'Ouest et du Centre et en Europe de l'Est. Et jusqu'à présent, 21 sur les 33 ont été touchées par les mesures de l'administration américaine. Certaines ont pu reprendre des projets, d'autres non, notamment au Burundi, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, où des associations concrètement menaient des actions de prévention auprès de travailleurs du sexe, auprès de personnes LGBT, faisaient du dépistage aussi auprès de ces populations. Donc, aujourd'hui, doivent arrêter leurs actions, doivent licencier les équipes qui étaient directement impliquées sur ces projets. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des personnes qui vont se retrouver sans aucun lieu où aller pour aller se faire dépister, pour avoir les bons outils de prévention. On avait aussi un espoir considérable sur notamment l'accès à la PrEP, ce traitement préventif qui est de plus en plus distribué en Afrique, et dans le monde en général. Et on voit que ce traitement préventif est aussi très ciblé par l'arrêt des financements, avec toutes les conséquences qu'on aura en termes d'épidémie de nouvelles infections, mais aussi inévitablement en termes de décès.
Et la directrice du SIDAction au micro de Valérie Cohen.
Enfin, on termine ce journal par du cinéma, Jeanne.
Et la nouvelle comédie de Jean-Pascal Zadi dans Prosper de Johan Gloagen. L'acteur nous embarque dans une comédie sur la sapologie congolaise, comédie dans laquelle vengeance et possession vaudou s'entremêlent avec panache, Elisabeth Le Quéré.
C'est bien lui.
C'est bien lui, quoi.
Tyrannisé par sa mère, baladé par son ex, timide, voire empoté, Prosper est un gentil garçon qui gagne sa vie péniblement comme chauffeur de VTC. Tout bascule quand il vole les bottines en croco d'un client mort dans son taxi. Prosper, le loser, se transforme alors en king, flamboyant roi de la sape et chef d'une petite mafia de truands congolais.
Toi et moi, on va aller chercher le zoba qui m'a fait ça.
Le film jongle habilement avec la double personnalité du héros, augmentée d'une touche de magie qui nourrit situation loufoque et quiproquo.
Maman, c'est toi qui m'as fait ça ?
Non, c'est pas moi.
Selon un modèle qui trouve à son apogée commercial dans les années 80 avec Black Mic Mac.
L'argent, il est où ? Espèce de fils de pute.
Hey !
Non, pardon, madame, pardon.
Moins convaincant. Sur le registre du fantastique, le film l'est beaucoup plus lorsqu'il lorgne du côté de la comédie à l'italienne, transposée dans le milieu des sapeurs, du sur-mesure pour Jean-Pascal Zadi.
Elisabeth Le Quéret du service culture.
Et Jeanne Bartoli pour le journal. Merci beaucoup. Vendredi 21 mars 2025, RFI Matin, 3 heures d'information et une première historique. À la une ce matin, l'ancienne championne de natation zimbabwéenne, Kirsty Coventry, élue présidente du CIO, le Comité International Olympique, jusqu'ici jamais dirigé ni par une femme ni par quelqu'un venu d'Afrique. Une élection éclair au premier tour et une surprise. Alors qu'elle n'était pas favorite, sa campagne a été moins médiatisée. Mais ce n'est pas ce qui a joué, nous dira tout à l'heure le spécialiste olympique Jean-Loup Chaplin.
Ceux qui votent, c'est pas les journalistes, c'est pas les gens qui regardent les réseaux sociaux, c'est les membres du CIO, et il y a la moitié de membres qui sont des femmes aussi, et il y a une incontestable poussée des athlètes parmi les membres. Je pense que l'âge a joué un rôle. Autrefois, pour être président du CIO, il fallait environ 60 ans. Aujourd'hui, Kirsty Coventry a 41 ans.
Kirsty Coventry, plus jeune dirigeante du CIO depuis Pierre de Coubertin et Jean-Loup Chaplin, invité Afrique de Christophe Jousset dans une demi-heure. L'actualité, c'est aussi le Proche-Orient et les bombes israéliennes qui tuent à nouveau à Gaza. Plus de 500 morts depuis mardi, de nouveaux ordres d'évacuation et l'offensive terrestre qui reprend dans plusieurs zones de l'enclave. Le Hamas a tiré hier des roquettes en direction de Tel Aviv et du côté israélien. On manifestait encore une fois contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Son gouvernement a officialisé dans la soirée le limogeage du patron des renseignements intérieurs. On appelle Michel Paul à Jérusalem, à 6h, temps universel. Et puis ils sont les châteaux d'eau du monde. Et les protéger est un enjeu de survie pour l'humanité. Le cri d'alarme de l'ONU qui lance aujourd'hui la toute première journée mondiale pour les glaciers. Ils disparaissent à toute vitesse et on en parle dans une heure avec notre grand invité, l'explorateur français Vincent Colliard sera dans ce studio. Mais pour commencer ce matin, à la une en Asie nous emmène dans un pays encore marqué par 30 ans de dictature à la fin du XXe siècle et où un vote fait aujourd'hui grand bruit. En Indonésie, le Parlement a amendé hier une loi pour permettre aux militaires de faire leur grand retour dans les instances gouvernementales. Bonjour Heike Schmidt.
Bonjour Julien.
Ces amendements ont comme un air de déjà-vu pour les Indonésiens et forcément ça passe mal.
Oui, tout à fait. Alors que dans l'hémicycle, les députés étaient en train de voter ces amendements, dehors, devant un Parlement transformé en forteresse, des canons à eau repoussaient les manifestants. Car ce retour des militaires au poste civil réveille de très mauvais souvenirs. C'est justement grâce à l'appui de l'armée que le général Suharto, à l'époque, a pu diriger l'Indonésie d'une main de fer pendant 33 ans jusqu'en 1998. Aujourd'hui, une expression de sinistre mémoire fait son retour, celle de Dwi Fungsi. Qu'est-ce que cela veut dire? Explication avec Andrea Sarsono. Il est chercheur au près de l'ONG Human Rights Watch à Jakarta.
Dwi veut dire deux ou double, Fungsi veut dire fonction, Dwi Fungsi signifie donc une double fonction. C'était un terme utilisé sous le président Suharto lorsque les officiers occupaient aussi bien des postes militaires que des postes civils. Ils étaient partout, y compris dans les affaires. Ce système fait son retour et c'est donc un jour triste et un recul pour la démocratie en Indonésie. Le président Prabowo Subianto n'aura mis que quelques mois pour faire revenir l'armée dans le secteur civil.
Il faut savoir que sous la dictature, le gendre du défunt Suharto commandait les très redoutées forces spéciales et aujourd'hui, ses détracteurs l'accusent donc de vouloir revenir en arrière pour restaurer justement le rôle de l'armée.
Aïke, désormais, que prévoit la loi?
Alors jusqu'à présent, les officiers de l'armée pouvaient déjà servir dans 10 institutions gouvernementales comme le ministère de la Défense ou l'agence du renseignement, mais la nouvelle loi leur ouvre bien plus de portes encore, celle de la Cour suprême par exemple et du bureau du procureur général, mais aussi celle des entreprises d'État, comme de nombreux défenseurs des droits de l'homme. Andrea Sarsono craint des abus de pouvoir, l'impunité pour les militaires ou encore le retour de la corruption.
Tous ces soldats, lorsqu'ils sont nommés dans des secteurs en dehors de l'armée, sont obligés de faire un rapport à leurs supérieurs et d'obéir à leurs ordres. Autre exemple, imaginez qu'un officier dirige une ferme agricole. Une ferme, ça a besoin de beaucoup d'eau. Alors qui aura la priorité pour obtenir l'eau nécessaire? Eh bien, je crains que ce soit comme sous le règne de Suharto, les militaires seront servis les premiers.
Manque de transparence, absence de débat démocratique, intimidation des voix critiques, Human Rights Watch et 6 autres ONG demande aujourd'hui l'abandon du projet et 186 organisations de la société civile ont lancé une pétition pour dire non à ce grand retour de l'armée dans le secteur civil.
À la une en Asie. Merci Heike Schmidt. Et avant la revue de presse tout à l'heure, un œil déjà sur les unes des quotidiens français. L'Ukraine et le sursaut de l'Union européenne en matière de défense. À nouveau en première page ce matin, notamment celle du Figaro. Face à la Russie de Poutine, le front fissuré des Européens, titre le journal qui raconte les craquements qui commencent à se dessiner sur la nécessité de réarmer l'Europe. Entre des pays du Nord et de l'Est de l'Europe préoccupés par la menace russe et des pays du Sud qui la trouvent plus lointaine. Pas d'ambiguïté chez l'eurodéputé français François-Xavier Bellamy. Nos pays doivent réapprendre très rapidement à parler le langage de la force et à s'en donner les moyens, dit l'ancienne tête de liste aux élections du parti Les Républicains. S'en donner les moyens, oui, mais comment? La question se pose notamment en France et Ouest France consacre un article à ce nouvel investissement qui sera bientôt proposé aux particuliers. Un nouveau fonds de la Banque publique d'investissement pour la défense. Concrètement, écrit le quotidien, les Français qui le souhaitent pourront y placer un minimum de 500 euros pour une durée de 5 ans minimum. Et Ouest France de souligner que l'engouement est déjà là, à en croire Sébastien Lecornu. Au ministère, on n'a jamais reçu autant de courriers disant « comment on peut aider ?» affirme le ministre des Armées. Et puis loin des champs de bataille, fuir le tragique de l'actualité en écoutant chanter les oiseaux. C'est ce que nous propose Libération ce matin dans un grand dossier. De récentes études scientifiques viennent confirmer une immuable intuition, écrit Libé. Le chant des merles, des pinsons, des mésanges a un effet bénéfique sur le bien-être et la santé mentale. Une naturaliste et un ornithologue signent d'ailleurs le livre Ornithérapie à ce sujet et l'affirment. Protéger les oiseaux, c'est nous protéger nous-mêmes. 6h20 à Paris.
RFI Matin.
Et dans la capitale française, c'était il y a quelques jours le Salon mondial du tourisme. Et un constat, dans un monde où le tourisme international a progressé de 11% l'an dernier, dans un pays, la France, toujours au premier rang des destinations mondiales, les Français qui partent en vacances sont, eux, moins nombreux, 2 millions de moins en 3 ans et une nouvelle baisse prévue cette année. Pour beaucoup, il faut désormais choisir entre les voyages et certaines dépenses du quotidien. Et pour ceux qui partent, une autre question s'ajoute parfois à celle du budget et de la destination. Avec qui partir si l'on est seul dans la vie? Le tourisme en solo séduit un nombre croissant de voyageurs. Qui sont-ils? Quels sont les avantages qu'ils y trouvent? Reportage de Mathias Troude.
Agence de voyage, office de tourisme, vendeur d'équipements, le Salon mondial du tourisme regorge d'idées pour les voyageurs.
J'ai déjà préparé ma valise, j'ai déjà mis mes deux maillots.
Dans son modeste stand, Didier Géano est un des spécialistes du tourisme en solo. Il travaille à l'association Aventure au bout du monde. Ses 1200 adhérents partagent astuces et bonnes adresses.
Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent à partir différemment. Les jeunes, avant 30 ans, beaucoup de femmes aussi qui partent en solo parce qu'elles ont moins peur. Et quand on part en autonomie et en indépendant, en individuel, si vous voulez, ça permet aussi de concrétiser son voyage, de le préparer soi-même. Donc quand on ne connaît pas avec qui partir, le mieux c'est de se lancer tout seul dans l'aventure.
Maria a 22 ans, sac à dos sur les épaules, elle revient justement de son premier voyage en solitaire.
C'était trop bien, j'aimerais bien répéter. Je suis allée juste 2 jours, je suis partie à Mignon. Je suis partie juste pour visiter la ville et il n'y a personne qui me dit ce que je dois faire. Je fais ce que je veux parce que je suis toute seule.
Hors des circuits balisés, la tendance du voyage solo peut sembler casse-cou. Pas pour cette quinquagénaire dynamique et ses 32 ans d'expérience en solitaire.
On ne drague pas, on fume pas et on ne boit pas. Et là déjà ça va mieux. Quand on est dans sa pleine conscience, on apprécie aussi tout ce qui est autour de nous. On est tout le temps en observation. Et en même temps, quand il y a des rencontres, on se lâche complètement et c'est chouette.
Des rencontres, par exemple, en auberge de jeunesse ou lors d'une nuit chez l'habitant, quand on ne dort pas à la Belle Étoile. Ce sont autant de solutions pour ménager son budget et c'est plus facile en solo.
Ça ne coûte rien. Je suis allée, par exemple, au Ladakh, qui est un pays à 5000 mètres, au nord de l'Inde. Et ça m'a coûté, avec le billet d'avion, moins de 2000 euros pour un mois et demi, par exemple. Alors que les gens, ils vont au Ladakh pour 4 500 euros pour 15 jours.
Philippe Mellul est un expert en la matière. Il a visité les 197 États indépendants du monde, souvent en solitaire. Il apprécie particulièrement les échanges culturels que ces conditions permettent.
Comme on est seul, on s'imprègne plus des contacts avec la population. On recherche le contact, donc on va plus vers les gens, mais les gens viennent plus vers vous aussi. Parce que quand ils voient un couple, ils se disent on va pas les déranger, alors que si c'est une personne seule, le contact se fait plus facilement.
Selon une étude menée par le Salon mondial du tourisme, près d'un voyageur sur 4 prévoit de partir seul cette année.
Notre reportage France signé Mathias Troude à retrouver sur RFI.fr et notre application Pure Radio. C'est votre rendez-vous chaque vendredi pour mieux connaître les coulisses du travail de RFI. Toutes les réponses à vos interrogations, c'est dans Pourquoi RFI dit ça. Bonjour Juliette Rangeval.
Bonjour Julien.
Avec une grande question aujourd'hui, peut-on rire de tout sur RFI ?
Nous allons essayer d'y répondre avec Maman qui tous les matins croque les petits et les grands travers de l'actualité. Sur scène ou à la radio, le public n'est pas le même. Notre chroniqueur doit s'adapter à une audience internationale qui est réveillée d'abord par le journal, puis par les nouvelles du Gondwana. On parle aussi avec lui des sujets tabous ou pas. Et puis Maman répond à certains auditeurs qui ont estimé qu'il dépassait les bornes dans sa chronique sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo.
Cette chronique, les mecs, en fait, la plupart des gens qui ont réagi, ils n'ont pas écouté la chronique. Ils ont juste réagi au titre où je disais « L'Est du Gondwana a perdu le Nord ». Ils réagissent sur les titres des postes. Donc, ils ne lisent pas les articles, ils n'écoutent pas les sons, c'est juste la phrase d'accroche. Et du coup, les mecs qui font des fake news, ils ont compris ça. Ils font des titres accrocheurs et basta.
Juliette, vous revenez aussi dans l'émission sur la CDAO, cible de quelques commentaires agacés de nos auditeurs.
Oui, on s'en est rendu compte récemment lors d'une tournée du président ghanéen dans les pays de l'AES. Une tournée pour tenter de réconcilier ces pays avec la CDAO. Et au-delà des remarques parfois justifié des auditeurs sur notre couverture de l'événement, nous revenons avec Laurent Corot sur les raisons pour lesquelles la CDAO est prise pour cible.
Ce qui se passe finalement avec les questions de nos internautes, c'est un jeu assez classique d'amalgame et de stigmatisation de l'adversaire, puisque la CDAO s'est opposée au régime putschiste ouest-africain, et bien les partisans de ses pouvoirs militaires souverainistes tentent de décrédibiliser cette organisation régionale en la faisant passer pour une organisation qui serait à la solde de l'étranger.
Et puis avec Frédéric Genot dans Pourquoi RFI dit ça comme ça, on parle de l'art de se dire bonjour.
La convivialité à l'antenne, ça commence par les salutations. Et là, c'est chacun sa formule pour dire bonjour, pour dire au revoir. Par exemple, là, j'ai fini et je vous dis à bientôt. Et vous,
bien,
Julien ?
Eh bien, je vous dis merci, Juliette Rangeval, et à tout à l'heure dans Pourquoi RFI dit ça. Rendez-vous à 11h10 et 19h40, temps universel. Et bientôt 5h30 en temps universel sur la radio du monde, un peu de musique avant le journal avec le franco-congolais Youssoupha, son nouvel album Amour Suprême sorti au mois de janvier, et un extrait Dieu est grande dans la sélection du mois des RFI.
Moi, je suis le genre de père un peu à l'ancienne. J'ai connu ta mère avant d'avoir une vie. J'ai eu un garçon, mais dans ma tradition, la vraie bénédiction, c'est d'avoir une fille. Alors ma princesse, suffit que t'apparaisses pour que le temps s'arrête, 1000 mètres à la ronde. Dieu est infini et je le remercie de m'avoir choisi pour être ton daron. Imane. Pas les peurs et les beaux parleurs, moralisateurs, leur cœur est minime. Ils ont cette façon de demander pardon. Pardon à Dieu et jamais aux victimes. On peut s'aimer sans toujours être d'accord. On peut s'aider même si on se connaît à peine. Si t'as des enfants, apprends-leur d'abord ce que t'aurais aimé, qu'à toi on t'enseigne. Parfois le temps de la justice est trop long. Fais le bien sur terre avant de parler des cieux. Certaines croyances viennent tout droit des colons. Tu peux faire le tri pour te rapprocher de Dieu. C'est pas si grave de faire des erreurs. Ce qui est grave, c'est de vouloir les ignorer. Le but, c'est pas d'être la meilleure, le but c'est de chaque jour s'améliorer. Imane. T'es pas obligé d'être une fille banale, t'es pas obligé d'être Michelle Obama, t'es pas obligé de vouloir être mère, t'es pas obligé de vouloir être reine. N'écoute pas les hommes, n'écoute pas les ordres, n'écoute pas les codes qui disent de la merde. Apprends encore à aimer ton corps, à aimer tes formes, à t'aimer toi-même. On a nos valeurs et nos traditions. Si ton amoureux t'emmène en balade, dis-lui bien que c'est lui qui paiera l'addition. Dis-lui que c'est l'impôt sur le patriarcat. Tu m'idéalises, mais même ton daddy est paternaliste. Faut que tu me pardonnes, dites à ces messieurs. C'est bien prétentieux d'apprendre la vie à celle qui la donne. Imane.
Dieu est grand, Youssoupha, qui sera en concert le 12 juin 2025 à l'Olympia. Si vous êtes à Paris ou pas loin, bientôt 5h30, en temps universel, le journal dans une minute.
Priorité santé.
Laurence Garcia vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Dans Questions de femmes, on attend vos témoignages sur la souffrance liée au travail. Harcèlement, burn-out, charge mentale, on vous répond sans tabou.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Demain sur RFI,
c'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
C'est la journée mondiale des glaciers. Il en existe 274 532 dans le monde et aucun n'échappe au réchauffement climatique. Partout, il craque, se morcelle et fonde. Nous vous expliquons avec nos invités pourquoi cela nous concerne tous.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.